Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir, et comme le disait si bien Nadia, c'est parti! Alors, il est bien 22h et quelques petites minutes, et c'est bien l'heure de la causerie, comme tous les dimanches, ou presque, de 22h jusqu'à 23h environ. Et ce soir, nous avons dans les studios, à la technique, Clara.
Bonsoir.
Le comeback.
Ouais, elle se fait rare, elle cultive le mystère.
Rare, non, pas vraiment.
Oui, c'est vrai.
Bon, voilà.
J'étais juste pas là la semaine dernière.
C'est ça. Et aussi Fab qui est dans les studios.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Alors, comme à notre habitude, hein, peut-être que ça vous saoule, mais on continuera de le faire. On vous rappelle que vous pouvez nous contacter par mail. N'hésitez surtout pas. C'est à La Causerie Canu, tout attaché en minuscules. Donc, lacausericanu@gmail.com. Vous retrouverez évidemment cette émission sur le blog de l'émission qui se retrouve à l'adresse suivante blogs.radiocanu.org/lacauserie et vous tapez sinon dans votre petit moteur de recherche quel qu'il soit La Causerie Radio Canu et normalement vous tomberez sur nous.
C'est quand il tombe sur nous.
Oh là là, je sens qu'on va s'amuser ce soir.
Il est avec son humour.
Il est où ton contact, ton coussin péteur? Alors, sinon, il y a évidemment, vous nous retrouvez aussi sur un réseau socio-commercial sur lequel on ne fait que poster les émissions, donc vraiment, voilà, ça sert juste à diffuser, ce qui est bien aussi, hein, mais voilà, enfin bref. Donc c'est sur...
Oui, en gros, on fout rien sur ce réseau social à part partager.
C'est
quoi.
Ça, mais c'est déjà bien. Donc c'est La Causerie, une page de La Causerie sur le réseau de Mark Zuckerberg. Et sinon, vous retrouverez aussi La Causerie, en tout cas les podcasts de La Causerie sur tous les systèmes de balado-diffusion et podcasts et compagnie sur les box, les machins, tout ça.
Il suffit de taper La Causerie Radio Canu Canu.
C'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas.
Non,
c'était
t'avais...
parfait. Hein.
Bravo.
Merci.
Et bon. Alors là, c'est pas moi.
Non.
Et donc, du coup. Et comme c'est pas Jean-Yves non plus. Et voilà. Donc, du coup, bah, quand même, redevenons un brin sérieux parce que tu vas aborder un sujet qui est loin d'être joyeux et tu vas nous parler un petit peu du Sénégal.
Tout à fait. J'ai bien envie de vous parler ce soir, hein, de ce qui s'est passé de ces dernières semaines au Sénégal. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu en parler de violence, d'émeutes suite à la condamnation d'un éventuel candidat à la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu en 2024 au Sénégal donc. Je vais tâcher de résumer. Hein. Alors, Ousmane Sonko, hein, le principal opposant au pouvoir en place, pouvoir tenu par Macky Sall, principal opposant donc, hein, après avoir été proche du pouvoir quand même, hein, Ousmane Sonko, il a été accusé de viols répétés et de menaces de mort par une femme, Hadji Sarr, en février 2021, les faits se seraient déroulés entre fin décembre 2020 et début février 2021. Ok. Elle travaillait dans un salon de massage qui, pour certaines, peuvent être des lieux de prostitution. Ousmane Sonko, lui, dit fréquenter, hein, pour des problèmes de dos.
Il n'y a pas de kiné là-bas, a priori.
Il n'a peut-être pas les moyens, je ne sais pas.
D'accord.
Ouais. Je disais donc un principal opposant au sujet de Sonko, oui, parce que en fait les deux autres principaux opposants du pouvoir ont depuis quelques années eux aussi connu des problèmes judiciaires. Et c'est là, en fait, une des clés de tout ce qui entoure cette affaire dont je vous parle plus précisément, mais qui est tout lié, en fait. Enfin, il y a vraiment un truc, il y a une brume un peu merdique. Donc, des opposants politiques hein, du pouvoir ayant tous eu des problèmes judiciaires, les éliminant, en fait, du terrain politique, laissant donc le terrain au président actuel. Et ce même Macky Sall, hein, donc le même président hein, actuel, bah lui, il a une fascination pour laisser planer le doute hein, sur un potentiel troisième mandat qu'il pourrait briguer. Alors qu'il était lui-même, Macky Sall, à l'époque du président Ouad, en lutte contre un éventuel troisième mandat que ce dernier voulait briguer.
Il n'y a pas une limitation dans la constitution sénégalaise en plus ?
Alors en fait, il sort sur une révision de la constitution en fait en lien avec la durée des mandats. En fait, Macky Sall, sa première élection était en 2012. Ok, on essaie de suivre. En fait pour un septennat, donc jusqu'en 2019. Sauf qu'en 2016, il y a eu une révision de la constitution pour passer du septennat au quinquennat, pardon.
Il nous a fait une Chirac.
Et il a donc été réélu en 2019 pour un quinquennat.
Et là, il dit, c'est pas le même mandat, donc je peux en faire trois.
C'est tout à fait ça. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé avant avec Abdoulaye Ouad, c'était du même tonneau, en fait. Hein.
Il était passé de 5 à 7, sûrement.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a un petit jeu entre 5 à 7. On revient à 7, on revient à 5, etc. En fait, on dirait un mauvais jeu de répétition, hein, dont en fait, les seules victimes, comme souvent, en fait, hein, quand il s'agit de politique, sont la population sénégalaise et cette victime de viol. Alors, pour revenir à cette affaire, en fait, qui a fait que tout a explosé, déjà en 2021, il y a eu des manifs, des soutiens à Ousmane Sonko en raison de son arrestation. S'en était suivi une répression du pouvoir politique en place qui avait alors déjà, en 2021, causé la mort de 14 personnes dans le pays. Alors, je reviens à aujourd'hui, 2023, donc l'audience pour cette affaire hein, avait commencé le 23 mai 2023, sans la présence de l'accusé, Ousmane Sonko, retranché dans la ville dont il est maire, parce que, selon lui, il n'a pas eu la convocation, et en raison de l'absence d'une sécurité assurée. Hein, il disait que ça pouvait être dangereux pour lui. Alors, la victime, elle, lors de son audience, elle a choqué en fait la population par ses descriptions sans tabou des choses qu'elle dit avoir subies, là où souvent, là-bas comme ici, en fait, c'est le silence en fait qui devrait régner. Et elle a également aussi décrit ce qui se passait dans ce salon de massage. Il faut savoir que la patronne du salon de massage a aussi été sanctionnée dans le procès. La victime, hein, forcément, s'en est c'est triste à dire, hein, mais c'est presque une logique, malheureusement, dans le monde patriarcal. On a pris plein la gueule. Des médias se sont moqués d'elle, ou la faisaient passer pour une femme facile, donc entendait comme une prostituée. Ce qui justifierait donc, selon certaines, qu'elle n'ait droit à aucun respect. Ou alors, il y avait encore, quand les journalistes parlaient de ce procès, une vraie confusion entre viol et sexualité. Voilà.
Donc, mais c'est pas nouveau, hein, au Sénégal, parce que je me rappelle, je crois que c'est en 2019, c'est en 2018, il y avait eu une marche des femmes sénégalaises, justement pour la reconnaissance du viol, et notamment du viol des jeunes filles. Ouais. Et en fait, on leur avait déjà répondu à l'époque, dans la presse, mais parfois les hommes, ils ont des sexualités brutes.
Oui, c'est ça.
C'est intéressant de voir l'espèce de façon de répondre, mais qui n'est pas tellement différente de celle qu'on avait en France comme réponse avant qu'il y ait le procès qu'avait gagné Gisèle Halimi pour faire reconnaître le viol comme un crime. Avant, on disait ça arrive, des fois on bouscule un peu, pardon.
Oui, j'ai presque envie de dire, même depuis Gisèle Halimi.
Non, mais ça n'a pas changé.
Ça a changé, non plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est reconnu comme un crime par la loi française, sauf que, en fait, dans un pays pays où ça c'est déjà pas vu comme un crime, ou pas totalement, ou pas clairement, ouais. Et où voilà, mais on voit bien qu'en France on a toujours cette aussi cette, bah, ce truc, oui, de minimiser ou de dire oui, mais quand même elle avait pas à être là,
elle est habillée comment,
voilà, exactement,
tout ça, tout ça,
donc
quoi.
c'est le même tonneau, quoi.
C'est ça, en fait, c'est pour ça que je parlais de monde patriarcal, ouais, et que lui non plus ne connaît pas de frontières. Donc Ousmane Sonko, hein, lui-même a tenu des propos absolument dégueulasses que j'ai décidé de pas répéter ici, mais vraiment dégueulasses, hein. C'est du racisme et aussi de la haine des handicapés, hein, voilà, pour faire court. Propos dit d'ailleurs qui ont été dénoncés par des féministes sénégalaises, hein. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2021, déjà des féministes sénégalaises avaient apporté leur soutien à la victime. Puis en fait, elles avaient un peu lâché, voire beaucoup lâché l'affaire, et la victime, en fait, du moins publiquement, bah, suite à des menaces de mort et de viol à leur encontre, hein. Mais aussi pour des raisons que j'ai trouvées en faisant ce sujet, bah, pour des raisons de scission aussi, en fait, au sein des différents mouvements et associations féministes sénégalaises. Là aussi, hein, quand on feuillette en fait les infos d'ailleurs, on se rend compte que
ben, en fait, les mêmes débats que chez nous.
Ouais, c'est enfin, oui, c'est triste, et en même temps il y a une forme d'universalité là aussi, tu vois, c'est,
je trouve ça, l'universalité du débat.
Oui, c'est, il y a vraiment quelque chose de cet ordre là, quoi. Donc en 2023 quand même, hein, afin de se mobiliser sans trop s'exposer, pardon, une poignée de féministes ont décidé de prendre la parole sur les murs de Dakar, et en fait un collectif, hein, a recouvert la capitale de différents graffitis du type Hadji, on te croit, justice pour Hadji, nos aînés ont eu la trouille de parler, nous on a gravé dans la pierre notre sororité.
Et on voit qu'il y a une scission ancienne nouvelle.
Je pense qu'il y a quelque chose de ça, en fait.
Okay.
La crainte, hein, justifiée autour de cette affaire, en fait, par les féministes, par pas mal de féministes, on va dire, sénégalaises, bah c'est qu'en fait cette affaire elle fasse reculer les droits des femmes, et en fait on le sait là aussi, hein, c'est universel, c'est quand il y a un truc qui est fragilisé, un droit ou une reconnaissance, etc., on sait que derrière ça peut entraîner vraiment plein de trucs et des vrais reculs, quoi. Donc là aussi, hein, ça touche le Sénégal, mais pas que, quoi. Le 1er juin donc, pardon, la condamnation d'Ousmane Sonko tombe, les charges de viol et de menaces de mort tombent, et seule la corruption de la jeunesse a été retenue. Pourquoi Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison. Alors, ce qui, pour ses soutiens, en fait, qui ne représentent pas tout le Sénégal, hein, j'aime à le répéter, mais comme tous les fans de Macron ne représentent pas tous les habitants, oui, et habitantes de la France, pas plus que les pro-Macky Sall, en fait, ne représenteraient non plus toutes et tous les Sénégalais. Hein, essayons de nuancer, de, voilà. En fait, tout ça, pour eux, ce serait une preuve flagrante d'un complot visant à éliminer Sonko de la course à l'élection présidentielle qui est à venir, comme je vous le disais, en 2024. Sans son suivi, après cette condamnation, bah des émeutes, hein, des soutiens de Sonko pendant plusieurs jours, avec la répression policière comme réponse, hein, ici, et ainsi aussi que la sortie de militaires dans les rues. Hein, Alors, il y a aussi des images d'hommes en civil avec des armes de guerre, dont personne ne sait qui ils sont, hein, qui pourtant sont quand même aux côtés de policiers. D'ailleurs, sur certaines images, on peut même voir des flics qui donnent des armes à ces hommes en civil. Mais on ne sait pas qui c'est, hein, évidemment, tout ça.
Police politique.
C'est un...
Comme ça existe, ouais, dans plein de pays. Hein.
C'est ça. Alors, même si le pouvoir, en fait, hein, en place, tente de faire diversion, hein, en parlant de manifestants armés, ou encore, je cite, de forces occultes étrangères, pour ne pas avoir, en fait, à parler de mecs en civil armés. Et d'ailleurs, mecs en civil armés qu'on a déjà pu voir en 2021, quand il y a eu les 14 morts.
Oui, parce qu'eux, ils s'en prenaient aux manifestants,
oui,
les hommes en civil armés.
Oui. Ouais. Oui, évidemment. Et certaines images, en fait, on les voit arriver dans le parti, dans le local du parti politique président au pouvoir.
Bon, bah écoute.
Donc, durant ces émeutes et cette répression violente, en fait, les écoles, les commerces, les banques ont été maintenues fermées. Et aussi, entre le 4 et le 6 juin, les autorités ont décidé de suspendre l'accès à Internet, hein, via les données mobiles. L'accès aux réseaux sociaux a été suspendu, pardon, entre le 2 et le 7 juin. Et le 1er juin, en fait, le signal de la chaîne Wolf TV avait été coupé, sans notification préalable, comme le prévoit pourtant un article, en fait, hein, du code de la presse, interrompant, de fait, leur couverture des manifestations. Vous voyez le délire?
Alors, je suppose que c'est une chaîne qui doit être un petit peu pas pro-pouvoir, ou du moins elle est plus libre que les chaînes pro-pouvoir.
Oui, c'est ça qui est, en fait, c'est peut-être juste de faire de l'information.
Ouais, c'est ça, oui, je veux dire.
Quand t'as l'armée dans les rues, je pense que.
Elle n'attend pas le pouvoir qui lui dit ce qu'elle doit dire, peut-être.
C'est ça, en fait.
Et du coup, quick.
Alors, il faut savoir que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, bah, lui, a nié toute responsabilité dans cette coupure, la troisième quand même depuis mars 2021.
Ah oui, c'est pas de sa faute.
Non. La chaîne YouTube de cette même chaîne de télé, hein, Wolf TV, sur laquelle la chaîne avait tenté de diffuser ses programmes après la suspension, a également été perturbée. Ok, et alors justement, en notant ce passage sur les médias, il faut quand même se rappeler, ou en tout cas faire un petit point, c'est que la situation des médias et des journalistes ne fait qu'empirer d'année en année au Sénégal. Hein. Il faut savoir que dans le classement, par exemple, de Reporters sans frontières, le Sénégal est passé de mémoire de la 73e place à la 104e place. Donc c'est jamais très très bon, quoi, ces reculs-là.
Bah, quand il y a une guerre de pouvoir comme ça, qui est une personne qui veut se maintenir et qu'en plus elle met en place des systèmes pseudo-étatiques, pseudo-légaux, pour finalement faire taire toutes les chaînes, les radios qui l'emmerdent, on se doute bien que ça va être plutôt problématique. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de complot d'après les soutiens,
oui.
Mais en fait, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont pris cette affaire qui est réelle et qu'en fait, ça le tombait plutôt bien.
Bah, en fait, il y a un petit peu de ça. Attention à vos portables, s'il vous plaît, merci.
Pardon.
Non, en fait, enfin, pour... Alors, j'ai pas tout fini, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là.
Oui, pardon, je t'ai coupé.
C'est-à-dire que je pense que alors, c'est toujours compliqué, hein. On n'est pas là, on ne sait pas, etc. Mais je pense que cette histoire de viol, il y a, je pense, du vrai. Sauf que je pense qu'habituellement, le pouvoir politique s'en tamponne complètement.
Comme le pouvoir judiciaire, d'ailleurs. Enfin,
d'où les faits que les féministes disent, bah, en fait, on aimerait bien que le viol soit reconnu comme ce qu'il est, etc. Mais que là, bah, le pouvoir, à mon avis, s'est dit, tiens, une occasion de désinguer un ennemi,
un opposant
politique, et qu'ils ont sauté sur cette affaire-là. Donc, il y a d'un côté, tu peux dire, oui, il y a, alors, j'ai pas envie de dire un complot, parce que le complot c'est toujours pareil, mais en tout cas,
une
opportunité,
ouais. Ouais,
du pouvoir en place de saisir une affaire. Et qu'en même temps,
pour une fois, le pouvoir judiciaire s'est intéressé au viol,
ouais.
Parce que ça tombait drôlement bien.
C'est ça. Et en même temps, quand tu vois les conclusions, je vous ai pas tout cité, mais il y a un médecin légiste qui parle, etc. Enfin, il y a des trucs. C'est juste en te dire waouh.
Oui, ils sont allés très loin dans l'abject, quoi.
Oui. Enfin, et puis les femmes, et puis en tout cas les victimes de viol sont pas prêtes d'être reconnues pour ce qu'elles sont, quoi. Enfin bref, depuis quand même, le bilan de toutes ces flics armés, l'armée, les civils dans la rue armée, etc. Ben en fait, le bilan fait quand même état de 23 morts, hein, quand même, 350 blessés au bas mot et plus de 500 arrestations de manifestants, d'opposants politiques, etc., etc. On sent bien que là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Plus évidemment ce que je vous disais, hein, des coupures internet et une victime présumée de viol vivant sous protection policière, hein, depuis 2 ans. Qui est enfermée chez elle et qui a le droit évidemment au pire traitement que peuvent connaître les femmes dénonçant un agresseur, un violeur. Les associations de type Amnesty International ou Human Rights Watch demandent évidemment au pouvoir des enquêtes indépendantes. Est-ce que ça arrivera?
Alors, ça n'a pas l'air parti pour. Hein.
Ouais, c'est un
non,
peu
mais après,
tout ça.
Après, c'est bien de le demander dans le sens où
ça met
ses pouvoirs en lumière sur leur côté justement. Non indépendant et surtout problématique. Par contre, il ne faut pas en attendre non plus. Je vois des fois des gens qui disent oui, mais ils pourraient aller à la Cour pénale internationale, des choses comme ça. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il y a trop de gens qui croient que le droit international, c'est un truc établi et qui se fait très facilement. Non, il faut des faits très précis pour aller à la CPI. Et malheureusement, pour un viol, on ne va pas à la CPI, par exemple.
Non, et puis en plus, voilà. Tu te dis, c'est à la justice.
Et en plus, c'est la preuve qu'il y a un problème de justice
oui,
locale.
En fait, c'est tout le truc. Quoi.
Voilà.
Donc, tout cela, au final, hein, pourquoi pour la course au pouvoir, hein, que tous disent vouloir changer, mais qui feront très certainement, en fait, hein, comme les précédents, de Wade à Macky Sall, c'est-à-dire, en fait, jouir du pouvoir pour eux-mêmes et leurs proches, bah, laissant les problèmes des habitants et habitantes du Sénégal au second plan, je veux dire, moi, enfin, en recherchant, etc. Macky Sall, il y a quand même son frangin qui est à je sais plus quel poste de pouvoir, son cousin qui est je sais plus à quel poste de pouvoir, et tu dis, ouais.
Le népotisme, c'est bien.
Mais ouais, mais sauf qu'en fait, Macky Sall, c'était le même qui critiquait Abdoulaye Wade qui avait fait pareil en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce que je disais au début. C'est un sale jeu de répétition et t'as l'impression que c'est une boucle sans fin. Et enfin, il y a un truc.
Pouvoir corrompt. Hein. Par définition, le pouvoir corrompt. Enfin, faut arrêter de penser.
C'est un peu tout le truc. Et le pouvoir vaut bien. Ce que je m'écrivais pour terminer, c'est que le pouvoir vaut bien. Hein, une victime de viol niée et réduite au silence, des dizaines de morts, des centaines d'arrestations et des libertés qui se réduisent d'année en année. Évidemment, le pouvoir, il peut tout expliquer et tout justifier et légitimer en fait. Et que après, en même temps, ce que se disent certains, c'est en fait pourquoi Sonko, lui, il a du succès et tout. En fait, il faut aussi voir la situation du pays économique. Enfin, moi, j'ai lu plusieurs et écouté plusieurs témoignages et tout. Enfin, il y a plein de gens qui disent en fait. Tu peux avoir un bac plus 5, tu vas finir avec un métier de merde parce qu'il n'y a rien dans notre pays, en fait. Quoi.
En fait, le Sénégal, si on regarde les richesses du pays par rapport, si on le compare en fait, au nombre d'habitants aux richesses du pays, c'est à peu près, ça devrait être à peu près l'équivalent de l'Espagne pour les gens qui habitent au Sénégal. Donc on ne peut pas dire que les Espagnols vivent dans un pays qui n'est pas développé, plutôt riche, machin et tout, ce qui n'empêche pas qu'il y ait de la pauvreté. Et on voit qu'aujourd'hui, si on regarde les classifications internationales de l'OCDE notamment, bah le Sénégal, en fait, c'est un des pays aujourd'hui où la redistribution de richesses est une des plus faibles. Alors, c'est pas la plus faible d'Afrique, mais c'est une des plus faibles. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que depuis des années, on a un continent extrêmement riche, parce que on en parlait quand on préparait l'émission, en fait, si l'Afrique n'avait pas autant de corruption et de corrompus à la tête des États, juste comme ça pour que vous vous rendiez compte, amis auditrices, auditeurs, ils écrasent économiquement, si on reste dans un capitalisme brut hein, comme aujourd'hui, ils écrasent économiquement les États-Unis et la Chine réunis. Parce que les richesses africaines aujourd'hui, les sous-sols, tout ce que... Et c'est tout ce qui est utile à ce qui est utilisé dans le capitalisme. Donc en fait, alors ça va des matières fossiles évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est le coltan, tout ce qui est l'extraction pour les panneaux solaires. Enfin, il y a énormément de choses qui sont extraites en Afrique. Et en fait, cette Afrique désunie. Et finalement, ces potentats qui succèdent et ces guerres ethniques, interrégionales, en fait, ça arrange énormément les grands États, enfin tous les grands groupes, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, la Chine, parce qu'en fait, tant que l'Afrique est désunie et tant que c'est une tension sans fin, ça empêche le développement réel de cette région du monde. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir finalement, comme tu dis, se reproduire systématiquement la course au potentat, c'est-à-dire la course au futur autocrate, quoi. C'est-à-dire, il va être mieux, machin et tout. Je sais qu'après tu passes un titre de Tiken Jafakoli, mais j'ai spoilé, mais en fait, voilà, c'est ce qu'il chantait quand il disait quand on se réunit comme les États-Unis. En fait, il a raison, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on est aujourd'hui face à une situation au niveau du continent africain où on a une telle division que cette division, elle ne sert même pas déjà les intérêts premiers des gens qui habitent sur le continent, mais en plus, elle sert avant tout les grandes richesses. Ouais. C'est-à-dire, elle sert les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, parce que pendant ce temps-là, en fait, c'est les pays développés, les pays plutôt riches, pompent et pillent l'Afrique, mais il y a l'association Surville dit très bien, c'est pire qu'à l'époque des colonies. C'est-à-dire, faut imaginer le truc, c'est-à-dire que on est en dehors des colonies, on pille encore plus aujourd'hui que ce qu'on pillait à l'époque où on colonisait ces régions-là. Donc c'est quand même surréaliste. Et pourtant on en est là. Et c'est là qu'il y a un vrai poids politique à avoir et que moi personnellement j'ai une grande confiance dans la jeunesse africaine et j'espère qu'elle se politisera et qu'elle prendra les choses en main pour modifier les choses parce que c'est aussi le continent le plus jeune du monde donc ça peut être aussi un contrepoids qui va faire
que la population du Sénégal c'est plus de 50% je crois qu'il y a moins de 25 ans je crois
donc je me dis peut-être qu'ils auront l'envie d'eux
et qu'en même temps là il y a aussi un autre projet c'est que le Sénégal va bientôt arriver dans les pays qui extraient gaz et pétrole si je me fais pas
ils ont demandé leur entrée dans l'OPEP d'ailleurs.
Donc ce qui fait que là il va y avoir encore plus de fric qui va rentrer et
est-ce qu'il y aura plus de fric pour la population j'en suis pas sûr
c'est tout le problème en fait quoi donc voilà et qu'en même temps on se dit il y a des gens qui sont prêts à enfin alors il y a la répression policière et qu'en même temps il y a des jeunes qui sont prêts à Enfin, je pense qu'il y a aussi un symbole de désespoir, en fait, d'être prêt à presque mourir, en fait, autant pour soutenir, est-ce qu'on sait vraiment pour soutenir Sonko, et, ou est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est d'abord pour dénoncer? Il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, ils sont dans la rue avant tout pour dénoncer ce potentiel troisième mandat de Macky Sall, en fait. Macky Sall qui refuse toujours encore aujourd'hui de dire qu'il ne se représentera pas. Et il y a plusieurs spécialistes qui disent, en fait, c'est qu'il y a plusieurs scénarios, et si dans tous les scénarios, Sonko est éliminé, en tout cas, ne peut pas se présenter.
Ça part dans la violence.
Ça va partir vraiment encore plus en vrille, quoi. Et qu'il y a vraiment, enfin, si on écoute certains spécialistes du continent, etc. J'avais un spécialiste d'Addis Abeba, etc. Enfin, ils disent, lui, il voit plusieurs scénarios et, enfin, il y en a peut-être un qui peut tenir à peu près la route. Tous les autres, c'est une crainte vers plus de violence, et, etc. Et, alors que le Sénégal était connu comme un des pays où il y avait cette capacité, la palabre, etc. Il y avait la capacité de discuter, de trouver du consensus, etc. Et en fait, ben, on se rend compte que peut-être que la course au pouvoir, en fait, elle fera partout pareil, quoi. Elle corrompt les humains et la petite population, ben, ils s'en tamponnent, quoi.
Il y a beaucoup d'historiens qui placent d'ailleurs la naissance de ce qu'on pourrait appeler une première base de la démocratie, pas la démocratie telle qu'on l'entend, dans des régions du Sénégal, dans ces régions africaines, où justement la palabre permettait le règlement des conflits plutôt que les conflits eux-mêmes. Voilà, donc comme quoi, il y a peut-être là aussi, replonger dans l'histoire pour se rappeler d'où on vient. Et voilà, parce que finalement, l'Afrique aujourd'hui, ce n'est que le découpage fait par des pays riches d'anciens royaumes et d'anciens pays, et où on a tout redécoupé, qu'on a bien foutu le bordel, et maintenant on leur dit, si vous pouviez être sympa, ce serait cool.
C'est ça, voilà. Vous avez des richesses qui nous intéressent.
Exactement.
Donc voilà, bon, avant de passer à la musique, hein, on va juste rappeler solidarité pleine, totale, entière avec toutes celles et ceux qui subissent le pouvoir politique, qu'ils soient dans les mains des uns ou dans les mains des autres, et toutes celles et ceux qui rêvent et qui militent pour d'autres choses, et évidemment solidarité aussi avec cette victime de viol qui a été niée et moquée et qui vit enfermée chez elle. Voilà, c'était évidemment pas joyeux, on avait prévenu. Et ben, on passe à la musique.
Laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, 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 laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, 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 mais laisse-le choisir. Élection truquée, démocratie volée, opposants arrêtés. Tout est manipulé, les radios censurées, les manifs désertées, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, 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 laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre. Laisse le peuple vivre, 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 mais laisse-le choisir. Qui prend nos gisements? Et qui est-ce qui nous ment? Qui prend nos minéraux? Se font passer pour des héros. Qui nous prend nos assiettes? Ne nous laisse que des miettes. Qui contrôle tout le blé? Qui nous a tout volé? Laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, 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 laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, laisse le peuple libre, laisse le peuple vivre, 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 mais laisse-le choisir.
Et vous êtes encore à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter, vous l'aurez certainement reconnu, Mr. Tikenja Fakoly avec le titre « Laissez le peuple libre », issu d'un micro-album de 5 titres inédits, qui est sorti il y a 2 jours, je crois. Et bien, c'est Fab qui prend la suite, et là, on va partir sur des choses un peu plus légères, quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Mais néanmoins intéressantes.
Bah, j'espère.
Et tu nous invites à aller à parler des dernières découvertes sur des traces de vie.
Potentielles. Voilà, parce qu'en gros, la vie ailleurs...
c'est importante.
Bah oui, la vie ailleurs, on avance. Voilà. Alors, quand je dis ailleurs, hein, on va être clair, c'est en dehors de notre planète, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous savez, ces derniers temps, le monde de la recherche en cosmologie, oui, ceci n'est pas un gros mot, cosmologie. C'est juste qu'en fait, il y a des gens, ils ont volé le mot astrologie. Alors, on est obligé d'inventer un autre mot, cosmologie. Mais au départ, ça s'appelle l'astrologie.
Et en voilà. Même temps, dans le cosmos, il y a les lunes, la lune qui rentre en Vénus et en Uranus,
ouais, mais non.
Je crois. Ah non, c'est pas ça. Okay.
Donc, dans le monde de recherche en cosmologie, en sciences du très lointain, donc, tous ces groupes se sont dotés d'outils de plus en plus performants pour aller chercher des traces de vie possibles ailleurs que sur notre planète. Nous en avons souvent parlé dans la causerie, et si ce soir j'en parle de nouveau, c'est parce que des découvertes récentes sont des bonds de géants vers la compréhension de l'univers et de ce qu'il contient. Et quand je dis bond de géant, c'est pas une image. Ça, d'un coup, même eux, ils le disent. Ils disent wow, voilà. Il y a beaucoup de données à analyser, du coup. Alors, la plus étonnante des découvertes, on va commencer par celle-là. Figurez-vous qu'on a trouvé du phosphore en dehors de la planète Terre. Alors, vous vous dites, ouais, ok, et alors ?
Je peux le faire. Ouais, ok, et alors ?
Voilà. Exactement.
Parce que je suis vraiment, je le redis, mais je suis pas du tout. Alors, je suis le moins scientifique de toute l'émission.
Figure-toi ou figurez-vous que le phosphore est en fait indispensable à l'existence de l'ADN et de l'ARN. Et que l'ADN, c'est juste ce qui permet la vie.
Ça, je sais pas.
Et oui. Donc, la présence de phosphore, c'est une sacrée découverte pour penser que la vie est possible ailleurs. Et voilà. C'est un peu comme l'eau qui est nécessaire aux poissons. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de vie. Et le plus drôle, c'est qu'il n'a pas été trouvé très loin, ce phosphore. C'est l'analyse des données recueillies par la sonde Cassini dans son exploration de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes qui révèle donc la présence de phosphore. Alors oui, vous allez me dire, Saturne, c'est pas à côté. Oui, sauf qu'à l'échelle de l'univers, c'est un petit peu comme chez votre voisin. Hein, donc c'est vraiment pas très loin, Saturne. Vous voyez, c'est, voilà.
On vous invite à réécouter la première émission qu'on a fait avec Georges,
voilà,
sur l'astronomie, où il
sur
parle
les distances.
Effectivement, la périphérie pas très lointaine.
Disons que Saturne...
Tout est relatif, quoi.
Saturne, c'est un peu Villeurbanne pour Lyon. Quoi. Donc c'est le voisin, quoi. Et c'est d'un article, dans la très sérieuse revue à relecture. Je le rappelle, la différence entre une revue en relecture, c'est qu'il y a d'autres pairs qui ont relu ce qui a été fait, et les revues à publication où vous payez pour être publié, où là personne n'a relu. C'est pas pareil. Quand il y a des relecteurs, on peut dire ah non, ça n'existe pas, ou ça c'est faux, ou ça va pas assez loin, ou c'est mal fait.
Même si je me souviens qu'il y a déjà pu y avoir dans des,
oui,
même dans des livres, enfin dans des revues,
c'est arrivé
avec relecture qu'il y ait des erreurs.
Sauf qu'en général, elles sont corrigées par les relecteurs suivants qui disent non mais là en fait il y a une erreur, et c'est retiré avec généralement des excuses et une explication du pourquoi. C'est la différence.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc en fait c'est dans la revue Nature qui révèle il y a quelques jours cette découverte. Voilà. Alors on se calme. Non, c'est pas sur Saturne que cela a été trouvé. Oui, parce que je sais bien que vous vous souvenez que Georges, justement, vous expliquait les conditions de vie sur Saturne, et je sens que vous allez m'écrire pour dire mais arrête de dire n'importe quoi, Fab. Non. Non, non, non. En fait, c'est bien sur la Lune, sur une lune de Saturne, que ça se passe. Et plus précisément sur Encelade, la Lune qui, par ses geysers géants de matière issue de ses océans sous glaciaires, alimente l'anneau le plus extrême, externe de Saturne. Et c'est dans ces geysers que la trace de phosphore a été trouvée. Et là, attention, parce que si vous commencez à vous dire « il y a une sacrée belle équation », je suis d'accord avec vous, et eux aussi. Je le redis. Le phosphore est un élément essentiel de l'ADN et de l'ARN. Donc, s'il y a du phosphore, il y a de grandes chances qu'on puisse fabriquer l'ADN et l'ARN. On le trouve également sur Terre, dans les os et les dents des humains et des animaux, et même dans le plancton océanique. C'est vous dire à quel point le phosphore, il y en a partout. Oui, c'est... Voilà, c'est un truc. La vie telle que nous la connaissons ne serait finalement pas possible sans lui. Or, je vous rappelle, si vous vous souvenez des émissions qu'on a fait avant, que le plus probable est que la vie apparaisse à peu près partout dans l'univers de la même façon qu'elle est apparue sur Terre. Pourquoi ? Parce que c'est pratique. C'est pas dur à faire, l'ADN, l'ARN. Et en fait, les formes de vie que nous sommes, même si on se prend des fois pour des dieux, sont assez simplistes d'un point de vue biomécanique. Donc en fait, globalement, ce serait beaucoup plus logique que la vie se développe partout pareil, parce que c'est facile. Vous savez, dans le vivant, on prend pas les chemins les plus compliqués, généralement. Part pour l'ornithorynque, le pauvre. Alors, je plaisante. Donc, il y a un scientifique qui dit « C'est la première fois que cet élément essentiel est découvert dans un océan ailleurs que sur Terre. » Et donc, c'est le principal auteur de l'étude qui s'appelle Frank Potzberg, qui est planétologue à la Freie Universität de Berlin. Voilà, j'ai essayé de le dire avec l'accent allemand. Et oui, parce que la vie est apparue dans les océans sur Terre. Hein, vous vous souvenez, c'est au fond de l'océan que la vie est apparue. Et il est plus que probable que ce soit le cas ailleurs. Donc, comme ça vient d'océans sous glaciaires, on a du phosphore, on sait qu'il y a tout le reste pour faire l'ADN et l'ARN, on est dans des océans qui sont sous la glace, où il y a une activité sismique et tellurique, donc il y a des veines de chaleur au fond de l'océan. Ça ressemblerait pas un tout petit peu à ce qui est arrivé sur Terre pour que la vie elle apparaisse ? Bah oui.
Oui, c'est ça. Il y a un cocktail idéal, en fait.
Ah ouais, il y a un super cocktail.
Favorable à une potentielle...
Apparition de la vie.
Apparition de la vie.
Alors, ce qui ne veut pas dire que la vie ressemblera exactement à ce qu'on a sur Terre.
Oui, et pas forcément non plus que les humains, où on ne sait pas ce qui y vit, soient tout verts, quoi.
Hein, non plus.
Hein, non plus.
Donc, voilà. Et donc, c'est une découverte incroyable pour l'astrobiologie. Ça, c'est Christopher Glynn, de la Southwest Research Institute. Qui est l'un des co-auteurs de l'article. Alors, je vous rappelle que généralement, les scientifiques, ils travaillent pas tout seuls dans leur laboratoire, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on voit dans les films. Parce que dans les films, on voit toujours le scientifique qui est tout seul, il fait des équations sur son tableau avec son Velleda, et puis d'un coup, il fait « Ouais, j'ai trouvé comment on arrête l'épidémie mondiale. » Non, ça arrive jamais.
Hein. Ah, c'est un petit peu plus complexe que ça.
Ouais, en général, ils sont plutôt une cinquantaine, ils réfléchissent ensemble, et ils disent « Ah tiens, on l'a peut-être trouvé. » Mais ils sont pas sûrs. Donc voilà. Et donc, il ajoute « Nous avons trouvé du phosphore en abondance dans les échantillons de panache de glace éjectés par l'océan souterrain. » Et c'est en fait la quantité qui d'ailleurs est le plus enthousiasmant. Et là, vous me dites, mais pourquoi la quantité ? Eh bien, c'est pas compliqué. S'il y avait trop de phosphore, ça voudrait dire qu'il y en aurait dans le sol. Bon, on se dirait, il y a du phosphore dans le sol. Le phosphore, il en existe ailleurs. Hein. S'il n'y en avait pas assez, on dirait, il n'y en a pas assez pour qu'il y ait des traces de vie dans cette eau qui est éjectée. Parce que vous avez compris que c'est un geyser de flotte. Hein, donc, voilà. Donc, s'il n'y en avait pas assez, on dirait, c'est pas possible qu'il y ait des traces de vie. Et figurez-vous qu'on tombe pile poil dans la fourchette du plancton océanique.
Okay.
Ah, et voilà. Et là, on
dit, ça va, je ne parle pas près du micro.
Voilà.
Je veux dire, ok, je suis pas sûr que les auditeurs et auditrices aient vraiment.
Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans une fourchette qui nous fait penser que, on serait pas trop mal pour se dire qu'il pourrait y avoir quand même de la vie. Vous voyez ? Cette découverte, elle a quand même demandé aux auteurs de passer au peigne fin des données recueillies par l'Institut Cosmic Dust Analyzer de la sonde Cassini.
Mais justement, c'était ça.
Par l'instrument, pas l'institut du tout.
Je vais aller me coucher. Est parti avec ses petites ailes comme ça.
Par l'instrument, donc Cosmic Dust Analyzer, donc analyseur de poussière cosmique.
Ouais, et ben justement, c'était ça ma question. C'est en fait, il y a rien qui allait sur la Lune, sur une des lunes de Saturne.
Non, elle est traversée un geyser.
Ah oui, donc
c'est la sonde
elle s'est quand même rapprochée à mort.
Ah plus qu'à traverser le geyser.
Oui, ce que je veux dire, c'est je sais pas comment dire, c'est pas des projections, c'est pas des estimations, etc.
Non, c'est des vraies données.
On est vraiment sur des vraies données, des vrais prélèvements, etc. Quoi.
Pour se souvenir, Cassini, elle a eu une mission qui a duré quasiment 8 ans autour de Saturne et de ses lunes et de ses anneaux. avant d'aller d'être projeté dans Saturne pour qu'on essaye de voir comment ça se passait. On a vu, ça se passe pas très bien la surface de Saturne, mais voilà, ça permettait de voir un peu ce qui se passait. Et en fait, pendant ces 7-8 ans, elle a traversé les anneaux de Saturne pour récupérer des morceaux de... Voilà. Et donc, elle a traversé notamment le grand anneau, celui qui est extérieur. Et c'est là qu'en fait, on sait que c'est issu de ces geysers. Donc là, on a dit, tiens, c'est marrant, dans ces données-là, il y a des trucs qui nous intéressent. Donc elle s'est rapprochée d'une source de geyser, elle a fait un petit tour, et elle a traversé l'endroit où il y avait le geyser. Comme ça, on a pu savoir que ça venait dans ces dans ce clade.
Ok.
Voilà. Et donc c'est vachement intéressant parce que c'est pas de la supposition.
Oui, c'est ça que je veux dire, c'est pas de la supposition, sur de la donnée.
C'est
quoi.
De la donnée.
Ok.
Et d'ailleurs, pour confirmer les résultats, parce que souvent, les complotistes vous disent, mais ils ont des données, mais et alors parce que comment ils prouvent que c'est ça? Alors, en fait, eux, ils ont dû recréer, le possible en réalisant en fait des expériences en laboratoire pour montrer que l'océan qui est dans ce clade contenait du phosphore sous diverses formes solubles dans l'eau.
Okay.
Et là, vous me dites, et alors? Et en fait, il y a une forme très précise du phosphore qui est la solubilité des cadavres. Et là, oui, parce que le plancton il meurt, mais c'est un être vivant.
Oui.
Et en fait, quand il meurt, il se dégrade.
Oui.
Et quand il se dégrade, on trouve un certain type de phosphore. On trouve, parce que le phosphore qui est dans votre corps, il est identifiable par rapport au phosphore que vous trouvez dans le sol.
Okay.
Et en fait, on a trouvé ce phosphore-là.
Okay.
En clair, ce n'est pas une affirmation au doigt mouillé.
Ouais.
C'était pour la blague.
Oui, oui.
Toi, doigt mouillé, j'ai des airs d'eau. Qu'est-ce que je suis drôle, c'est ça.
On avait prévenu, on savait que ça allait mal se passer. Quoi.
Donc, Christopher Glynn, il pose cette conclusion qui est très intéressante. Avec cette découverte, l'océan dans ce clade est maintenant connu pour satisfaire ce qui est généralement considéré comme la première condition nécessaire à la vie. Mais c'est intéressant, hein. La prochaine étape, pour lui, est claire. Il faut revenir en ce clade pour voir si l'océan est habitable ou réellement habité. En gros, il va falloir envoyer une sonde.
Oui, c'est ça, c'est à la rigueur, là, ce qu'il faudrait arriver à faire.
Passer sous la glace.
C'est passer, enfin...
Ouais. Traverser le geyser.
Un geyser. Chose aisée.
Ouf, on a envoyé une sonde à 600 millions de kilomètres du Soleil, on doit pouvoir traverser un geyser.
C'est pas fou.
Voilà. Oui, en fait, la vie, elle est donc sans doute présente tout près de nous. Et ça, c'est hyper fascinant. Alors, pourquoi c'est fascinant? Pour une raison simple, c'est que si la vie n'est pas une exception, nous ne sommes pas des exceptions. Déjà, donc ça nous remet un petit peu ailleurs qu'au centre de l'univers. Et surtout, ça veut dire que la vie, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Parce que très longtemps, on a cru que la vie, c'était complexe pour qu'elle apparaisse. Et finalement, plus on étudie la vie et ce qu'elle est, et plus on se dit, en fait, non, les conditions premières pour que la vie apparaisse, c'est assez simple. Et le reste, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'après, une forme de vie évolue. Et donc, en fait, c'est hyper passionnant, parce que ça veut dire que si on trouvait de la vie à côté de Saturne, on aurait donc de la vie dans notre proche banlieue, ce qui voudrait dire que finalement il y aura peut-être des milliards de planètes où la vie a existé ou existe. Et voilà, c'est hyper fascinant.
Ouais.
Voilà. Et donc moi je vous propose aussi d'aller, c'est ma deuxième partie de chronique, d'aller voir des petits bouts d'ailleurs. Et
okay.
Oui, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui n'a rien à voir avec la précédente, quoique. C'est la volonté du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris d'ouvrir un centre européen dédié à la matière extraterrestre. Ouais, ça sonne un peu comme dans X-Files, mais non, mais c'est de la vraie matière extraterrestre.
C'est ce que j'allais dire, mais bon.
Regroupant, les milliers de météorites issues de ces collections, ainsi que les échantillons prélevés sur la Lune et sur les astéroïdes. Parce que souvenez-vous qu'on est allé quand même prélever des échantillons sur des astéroïdes. Et ce centre, ce centre qu'on appelle... ce centre qu'on appelle un centre de curation. Alors, la curation, c'est de l'exposition en langage soutenu.
Ah, ok.
Voilà. Et de recherche serait le tout premier en Europe. Et c'est vachement bien, en fait. Donc, ce centre décidé en partenariat avec le... Oui, il fait très chaud, je suis désolé. Il fait horriblement chaud dans les studios de Radio Canu.
C'est plus compliqué que de faire des blagues tout pourri.
Désolé, vraiment.
Donc, moi aussi.
Je suis pas arrivé à finir, je sens.
Non, allez.
Ce centre, en fait, qui est donc décidé en partenariat avec le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, et le CNRS, donc c'est quand même deux acteurs qui sont plutôt intéressants pour faire des études, quand même, et qui a reçu le soutien aussi de la NASA et de l'Agence Spatiale Japonaise, et sur de bons rails. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à cette idée-là, parce que, en fait, on a assez peu de centres qui regroupent autant de matières pour pouvoir faire des études.
Et ils ont déjà une idée d'où ils le mettraient?
En fait, ce sera à Paris. Ouais.
C'est chiant, voilà. Ce truc à Paris.
Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il est déjà le muséum, et du coup, c'est.
Oui, mais vu que t'as la cité de l'espace ou des trucs comme ça à Toulouse. Toulouse,
ouais, c'est vrai, Toulouse.
Ça pourrait aussi avoir du sens de le mettre ailleurs que.
C'est pas faux. C'est... Non, je suis d'accord avec
dans
toi.
Dans la capitale jacobine.
Donc, ça va regrouper quand même plus de 4000 fragments de météorites, ce qui est quand même assez énorme. Et pour l'anecdote, on trouvera le plus gros morceau de la météorite tombée en février en Normandie. Oui, souvenez-vous, on avait. Si vous avez peu, allez voir, tapez météorite Normandie, il y a des images, on voit, poum, elle tombe bien. Et vous savez, en fait, c'est ce morceau que deux Américains avaient ramené aux États-Unis pour le vendre découpé en rondelles. Oui, parce qu'il y a un marché de la météorite quand même.
Bah, oui.
Et l'objet avait été finalement été sauvé par un donateur qui a racheté tout l'ensemble et qui l'a légué au muséum, voilà, ce qui est plutôt cool. Donc, voilà. S'ajouteront à cela des échantillons purs. Alors, ce qu'on appelle pur, c'est que ça n'a pas traversé l'atmosphère. Oui, attention, prélevé directement en fait sur les corps célestes, ah, oui, des fragments d'astéroïdes que la sonde japonaise Hayabusa, je pense que c'est ce qu'elle dit comme ça, et des échantillons de la sonde chinoise sur la surface cachée de la Lune qui ont été ramenés. D'ici 6 ans, l'établissement espère récupérer des échantillons de la mission japonaise vers la Lune martienne Phobos.
Cool.
Ouais, ce qui devrait permettre, alors déjà pour nous qui sommes loin d'aller dans l'espace, de pouvoir voir des petits morceaux de d'ailleurs, d'autres mondes, hein, clairement.
De notre périphérie, quoi.
Ouais, notre périphérie un peu loin d'être quand même. Et aussi pour les scientifiques, bah, de pouvoir étudier directement. Et c'est super intéressant, parce qu'il y a plein de scientifiques qui disent, bah, ça va permettre, par exemple, de voir s'il y a des traces de passage de bactéries sur les cailloux qui vont être pris sur Phobos. Vous voyez, est-ce que Phobos a contenu la vie ou pas? Est-ce que c'est un bout de Mars ou est-ce que c'est pas un bout de Mars? En fait, il y a plein de choses que ça va permettre de comprendre et d'analyser. Par exemple, ce qui est assez intéressant avec ce qui a été ramené de la Lune, vous savez, la Lune, c'est quand même notre satellite, on le voit tous les soirs ou presque. Et en fait, on savait pas vraiment, on imaginait comment la Lune s'était formée. Et pendant très longtemps, on avait l'idée que la Lune avait pris plusieurs années, voire centaines d'années, voire peut-être milliers d'années pour se former. Et de plus en plus, il y a une théorie qui dit que, bah, pas forcément. Si ça se trouve, la Lune s'est formée en quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre était encore sous forme très liquide. Elle aurait été percutée par un objet céleste, sûrement une comète, quelque chose comme ça. Ça a éjecté la Lune et la Lune a refroidi assez rapidement. Mmh. Sauf qu'en fait, bah, il n'y a qu'en ayant des échantillons qu'on peut essayer de comprendre tout ça. Et oui, il y a plein de gens qui vont sûrement m'entendre et dire « mais on n'en a rien à faire ». Mais en fait, si, parce que plus on comprend et plus on sait anticiper, comprendre et évaluer les risques et ce qui peut se passer ou tout simplement faire des découvertes scientifiques qui peuvent nous aider à sauver des vies. Parce que ça peut être lié. Oui, ça paraît bizarre, mais ça peut.
Oui,
être lié.
Et puis aussi,
le fait de comprendre.
Oui, il y a cette curiosité humaine qui, je pense que ouais. C'est ce qui fait que l'humain bouge, l'humain crée, etc. C'est aussi une forme de curiosité.
Ouais, puis je trouve ça plus passionnant que et Dieu créa l'univers.
Oui.
Voilà. Donc cela en fera donc du coup de centre d'études l'un des plus fournis en termes de matériaux de recherche. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc un endroit dédié à la compréhension de l'univers, mais aussi à la recherche donc de traces d'éléments nécessaires à la vie. Parce que c'est là qu'on y revient à ma première truc, c'est que vous savez que dans des météorites, des fois on trouve ah oh, tiens c'est marrant, il y a quasiment de quoi faire l'ADN. C'est pour ça qu'on a de plus en plus l'idée que la vie elle a pu être ensemencée par les astéroïdes qui tomberaient sur des planètes qui contiennent de la glace ou de l'eau. Et qu'après, ça fait la vie.
Oui.
Et on se clade, et ben, elle est bombardée de météorites aussi, comme la Terre. Mm. Truc de ouf. Voilà. Donc, on imagine bien que de mettre autant à disposition devrait quand même aider à voir de nouvelles découvertes émerger. C'est pour ça que je parlais de bons géants. Parce que là, vraiment, on avance vite. Donc, on avance quand même à grands pas. Ces deux excellentes nouvelles sont un premier pas, ou un très grand pas, vers une meilleure compréhension de la vie et de ce qui s'y rattache. La quête de savoir autour de cette notion est importante, car elle tend à démontrer que loin d'être extraordinaire, et encore moins divine, la vie est avant tout un regroupement d'éléments qui la permettent. Et que ces éléments sont présents proches de la Terre et au-delà. De quoi nous plonger dans des milliers de questions, parce que c'est ça qui est intéressant, des milliers de questions autour de ce que nous sommes, et notre propension à nous penser indépassables ou seuls, parce qu'a priori non, mais aussi une porte ouverte sur un avenir plus uni, peut-être, parce qu'après tout, si on n'est pas aussi important individuellement, peut-être qu'on apprendra à vivre mieux collectivement, allez savoir. Reste à faire connaître ses avancées et ses implications, parce que c'est ça qui, moi, me désole un peu, c'est qu'en fait, on en parle très peu, et alors que je trouve que c'est des informations qui sont aussi importantes que de savoir si c'est la saison des cerises ou des fraises, quoi. Voilà, bref, qui revient chaque année. Oui, vas-y.
Mais non, mais c'est que en même temps, tout ça, ça rejoint aussi, je trouve, le sujet que c'est la semaine dernière que tu as parlé de croyance versus savoir.
Ouais.
En fait, oui, c'est aussi la fainéantise de notre cervelet. Des fois, bah, il aime se satisfaire de bah, c'est Dieu qui a tout créé, c'est simple, c'est facile, et il n'y a pas de mystère, quoi.
Alors que là, il y a plein de questions.
Alors que là, il y a plein d'inconnus, quoi.
Et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est mettre les moyens nécessaires à la réussite des recherches autour de tout cela. Donc, c'est un défi de plus pour l'humanité qui n'en manque pas. Mais je vais citer, parce que je l'ai de tête, un mec que les gens aiment beaucoup, qui s'appelle Thomas Pesquet, qui a dit quelque chose de très intéressant. Et je me suis dit, tiens, c'est bien qu'il le dise comme ça. Il a rappelé qu'en fait, il n'y a jamais de recherche fondamentale inutile. Il n'y a que l'utilisation qu'on peut en faire après qui pose problème. Et là, je suis assez d'accord avec lui. Et la deuxième chose qu'il a ajoutée, c'est qu'on est capable de mobiliser chaque année 2787 milliards d'euros pour se faire la guerre et qu'on ne mobilise que 50 milliards par an, toutes nations confondues, pour, et toutes recherches confondues pour la recherche fondamentale, qui a de la marge. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Voilà, c'était pour dire. Je trouve que c'était une bonne démonstration qu'en fait, ouais, on pourrait mettre notre argent ailleurs.
C'est des choix politiques et c'est des priorités politiques qu'on a envie de se fixer, quoi.
En tout cas, c'est deux super bonnes nouvelles et moi j'espère que je reviendrai dans quelques mois dans la causerie pour vous annoncer que sur Encyclade, il y a des petits trucs qui bougent.
Ce serait effectivement formidable. Cool.
Alors quelques années plutôt que moi, mais voilà.
Et quand même, toi, je me dis, tu vois, quand tu disais ça va créer peut-être une forme d'unité, etc., je me dis oui, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que ça crée une unité entre les humains de Terre.
Contre les bactéries,
parce que vraiment c'est j'ai l'impression que on ne fonctionne que par le conflit et par l'opposition, même si
je sais bien que l'humanité,
pas que la guerre.
Moi je vais le dire honnêtement, je n'ai aucune idée et je rejoins beaucoup Carl Sagan qui en parlait énormément dans ses livres, qui était un grand scientifique.
Toute humilité.
Non mais je le rejoins pas, je me mets pas à son niveau, je veux dire j'ai beaucoup aimé lire ce qu'il disait. En fait lui il dit on ne sait pas ce que déclencherait le fait de savoir qu'il y a autre chose ailleurs. On n'en a aucune idée, parce que, alors il a fait plein de prospectives, il a fait des livres super où ça se passait très bien, des livres où ça se passe très mal, enfin il a essayé de réfléchir, mais il dit par exemple, il y a un truc qui se passe quasiment automatiquement, c'est que toutes les religions quasiment s'effondrent, ou du moins doivent se réformer, parce qu'elles affirment toutes qu'on est unique, qu'on a été créé par des dieux ou un dieu.
Que le dieu qui a créé la terre, les humains, etc.
Sagan était athée, il avait aucune croyance, et vraiment, enfin, il était même pas superstitieux, donc il a vraiment, voilà. Mais il essaye de se projeter, et il dit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Bah, ouais. Voilà. Et lui, il dit, après, le truc, c'est là que je le rejoins, c'est que plus, en fait, on fait de connaissances scientifiques et de vulgarisation scientifique, et moins l'annonce est violente. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on a des tas de gens dans le monde, y compris dans les pays développés, qui n'ont aucune idée de toutes ces recherches-là, et qui, d'un jour, on va peut-être faire la une des journaux en disant « il y a la vie sur telle planète ». Et du coup, le choc est d'autant plus violent, parce que « alors qu'en fait, on devrait commencer, au contraire, à parler de ces découvertes-là, y compris dans le milieu scolaire, partout, pour qu'en fait on comprenne que d'abord on avance et qu'en plus on se rapproche du moment où il y aura cette annonce. Et moi, à mes yeux, je l'attends parce que je trouve ça génial. Mais il y en a plein qui vont flipper, mais c'est pas grave, on les rassurera, on le prendra sur nos épaules, on leur dira t'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, on passe à la musique.
Et c'était Sissi du groupe islandais Hermitageville. Et on arrive tout doucement et sûrement à la fin de la causerie sur Radio Canu.
C'est
ça. On va passer au brève.
Ouais, ben oui, c'est ça, tout à fait.
Mais merci pour ce titre, Clara, il était totalement barré.
Alors, le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, pour être, essayer d'être clair, en fait, il y a des collectifs qui s'organisent en non-mixité au sujet des femmes qui se retrouvent sans logement. Spécifiquement les femmes. Et en fait, ce collectif déjà en non-mixité se réunit lundi soir, le 19 juin, pardon, de 17h à 20h à la Bourse du Travail, donc dans le 7e, si je ne me plante pas. Et ce même ensemble de collectifs, associations, etc., etc., appelle à un rassemblement le jeudi 22 juin à 17h30. Toujours en solidarité en fait avec toutes les femmes concernées et toutes les personnes qui sont concernées par le fait de ne pas avoir de toit. Et les participants et participantes vont au-delà de juste des femmes sans domicile. Ensuite,
il y a Darmanin qui pose une loi.
Voilà, c'est ça.
Et comme d'habitude, quand Darmanin pose une loi, elle n'est pas top. Elle est même dégueulasse. Donc,
il y a un rassemblement mardi 20 juin, quai aux gagneurs, à 18h30, contre justement cette loi à venir de Darmanin, dite loi immigration. Et vous l'aurez compris, si vous suivez un petit peu l'actualité ou autre, hein, en vous souhaitant que vous ne restez pas dans un vase clos militant rebelle, ça pue la merde en fait. Hein, parce que, que ce soit le gouvernement ou la droite et l'extrême droite se saisissent d'à peu près... tout pour justifier un raffermissement, une autorité réaffirmée de l'État face aux personnes qui voudraient tout simplement venir vivre ici pour peut-être des fois ne pas mourir sous des balles, pour pouvoir bosser, pour pouvoir bouffer, enfin juste pour pouvoir vivre quoi en fait, hein, sans idée ni projet de vous remplacer. Hein. Donc ces projets de merde, donc la loi Darmanin est à dénoncer évidemment. Ça se passera, comme je vous l'ai dit, mardi 20 juin à 18h30, terrasse de la Guillotière, quai aux Gagneurs.
Et alors, il y a aussi donc jeudi 22 juin, une conférence avec Jean-Claude Samouillet, qui est le président d'Amnesty International et qui viendra avec Salah Hamouri, qui est un avocat qui a été retenu en prison pendant des mois en Israël. Donc, je vais vous lire l'invitation. Nos invités reviendront sur le système d'apartheid mis en place par Israël au mépris du droit international. Ils reviendront également sur la colonisation et la situation des prisonniers palestiniens. Donc, ça s'appelle Palestine, Israël, colonisation, apartheid. C'est donc avec Jean-Claude Semoulier et Salah Hamouri, qui est franco-palestinien, donc, et qui est donc un ancien prisonnier politique. Ça se passe jeudi 22 juin 2023 à 18h30 à la Bourse du Travail, salle Moissonnier, c'est au 3e étage et c'est au 205 place Guichard dans le 3e, et c'est à l'appel d'un collectif très très large dans lequel se retrouvent en fait des syndicats, ATTAC, Amnesty International et d'autres. Voilà.
Ok, très bien. C'est l'heure de se quitter, on est presque à l'heure, c'est incroyable.
Oui.
Et on se quitte en musique, c'est donc toi qui annonce.
J'annonce Umel Ogzan, qui, comme son nom l'indique, est norvégien, qui est avec le titre Kalimba. Voilà.
Très bien, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. On sera là une bonne partie de l'été en espérant que vous serez là aussi pour tendre vos petites oreilles. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et puis des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Ciao, ciao.